This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. À quand les armes intelligentes capables d'identifier les cibles et de prendre la décision de tirer? Le sujet est tabou dans toutes les armées du monde occidental, où l'on se plaît à rappeler que la décision finale revient à l'humain. Mais la convergence technologique semble ouvrir d'autres perspectives. Un homme connaît bien ce sujet, Nicolas Chaillant a passé 3 ans comme responsable de tous les logiciels de l'US Air Force et du US Space Command. Autrement dit, il supervisait toute l'informatique de l'aviation et du commandement de l'espace pour les États-Unis, du F-35 au satellite espion. Il régnait sur une légion de 100 000 développeurs informatiques, 4 fois plus que Google. Fin 2021, Chaillant quitte le Pentagone, exaspéré par l'inefficacité ambiante, la lenteur des processus de décision et la gabegie généralisée. Il s'épanche même dans une interview tonitruante dans le Financial Times. Aujourd'hui, il a créé AskSage, une firme d'intelligence artificielle basée sur ChatGPT qu'il a adaptée pour les besoins de l'armée américaine qui reste son client principal. Avec lui, on va donc parler armes autonomes, compétition, voire confrontation avec la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire. Bonjour Nicolas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Je précise que vous êtes en Virginie, près de Washington. Je voulais qu'on commence d'abord par parler d'armes intelligentes et de l'impact croissant de l'IA dans le système de défense américain. Quand on regarde les développements dans ce secteur, il semble qu'il y ait des progrès dans ce sens. L'an dernier, Israël a déployé des armes robotisées en Cisjordanie. Elles sont capables de tirer des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Elles ne sont pas autonomes, mais on sait que les drones qu'utilise Tsahal sont équipés de systèmes de reconnaissance faciale. Cet été, l'US Air Force, votre champ d'activité, en tout cas ancien champ d'activité, a poursuivi les tests du super drone Valkyrie, qui a presque 6000 km de rayon d'action et qui est quasiment autonome jusqu'à la décision finale de tirer ou de ne pas tirer, qui est laissée à des humains. Il semble quand même qu'il y ait une grande convergence dans les technologies dans ce domaine. Comment voyez-vous cette évolution ?
Alors c'est sûr qu'on voit de plus en plus de systèmes automatisés qui vont permettre d'augmenter les capacités humaines. C'est sûr que dans la défense, on voit déjà, comme vous avez mentionné, plusieurs engagements qui vont permettre de commencer à utiliser toutes les capacités d'artificial intelligence et de déployer ces capacités-là sur des drones, sur des systèmes dans l'espace au niveau satellite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va évoluer. On est très loin, cela dit, de tout ce qui est automatique, hein. Il y a toujours, je pense qu'on sera très très loin si je sais même pas si ça va même être autorisé d'avoir un système qui va être capable de tirer sans intervention humaine. Aux États-Unis en tout cas, on n'est pas du tout autorisé à avoir des systèmes qui remplaceraient la décision humaine.
On a quand même un petit peu l'impression que la doctrine évolue légèrement au Pentagone. Lorsque les journalistes américains interrogent les officiels du Pentagone sur l'autonomie qui serait laissée à des armes de prendre la décision d'engager l'ennemi, c'est-à-dire de tirer ou pas, la réponse est de plus en plus évasive. Par ailleurs, quand on regarde les utilisations possibles, par exemple du drone Valkyrie, il est question de l'engager dans du dogfight, c'est-à-dire du combat aérien. Et là, on ne voit pas à quelques milliers de kilomètres de sa base, un drone demandait l'autorisation de tirer. Il va fatalement avoir recours à ses propres systèmes opto-électroniques de repérage des cibles, de désignation des cibles, d'identification des cibles et puis probablement de décision de tirer. En tout cas, c'est la logique, vous ne croyez pas ?
C'est vrai qu'il y a un changement un peu de culture et c'est vrai qu'on voit aussi que les systèmes automatisés deviennent de plus en plus sécurisés. C'est vrai qu'on peut aussi se demander parfois si l'humain est au final plus capable de prendre ses décisions que le robot. Cela dit, quand vous parlez du Valkyrie, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, c'est un dogfight dont vous avez parlé dans les airs avec 2 jets, par exemple. C'est vrai que on ne verra pas une situation où le Valkyrie va décider de tirer avant d'être d'avoir l'humain qui confirme que la cible est autorisée à être détruite. Donc c'est vrai qu'après, une fois que la cible est identifiée et marquée comme ennemi, c'est certain que le Valkyrie pourrait ensuite utiliser ses capacités pour attaquer la cible sans avoir une intervention humaine après. Mais il ne faut pas oublier que l'humain a décidé quand même de marquer cette cible comme ennemi.
Vous croyez que cette digue va tenir? La digue de l'humain qui prend la décision au final?
C'est toujours intéressant. Hein. On voit aussi, c'est un peu les mêmes discussions au niveau des voitures, hein, avec tout ce qui est conduite automatisée. À un moment, on va avoir assez de données pour se dire, ben voilà, le robot est moins biaisé, plus capable, plus réactif, plus proactif, peut avoir des règles très bien définies, comme un humain, et au final, potentiellement avoir des retours plus rapides et plus efficaces. Et donc, c'est vrai que il se peut qu'on évolue vers un monde où le robot sera capable de prendre les décisions, mais ça sera basé sur la donnée. Et je pense d'ailleurs qu'au final, on sera dans un monde peut-être un peu plus sécurisé, puisque les humains, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Hein.
C'est toute la thèse de Alex Karp, qui est le patron de Palantir, un des grands fournisseurs du Pentagone, qui a fait cet été, vous l'avez sans doute vu, une tribune dans le New York Times qui s'appelle « The Oppenheimer Moment », dans lequel il explique que, selon lui, l'usage des armes létales autonomes est absolument inévitable. Il y voit deux choses. Il y voit d'abord le fait que c'est une question d'équilibre militaire entre les États-Unis et les autres puissances. Et puis, il défend un peu ce que vous dites aussi, qui est le fait qu'une arme pourvue d'autonomie est en fait dépourvue d'émotion et qu'à ce titre-là, elle va être débarrassée du stress du combat et être à même de prendre des décisions beaucoup plus froidement. Vous pensez qu'il a raison là-dessus?
C'est vrai que plus les robots vont être intelligents, plus ils vont être capables, plus ils vont être autonomes, plus ça va devenir un vrai problème d'ici 15 à 20 ans. On va voir au niveau d'automatisation des tâches qui va être énorme.
Quand Alex Karp dit qu'il s'agit d'une question d'équilibre des moyens et donc de la puissance militaire entre les États-Unis et ses adversaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien et qui avez mené et participé à beaucoup de simulations de combats contre la Chine? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Ben, c'est certain que on peut pas être le pays sans ces capacités-là. On l'a vu déjà non seulement avec le nucléaire, on l'a vu avec l'intelligence artificielle, on l'a vu avec tout ce qui est hypersonique, on l'a vu avec tout ce qui est cybersécurité, non seulement en défense mais aussi dans l'attaque. Et on voit que la Chine nous attend pas pour se réveiller. Ils sont déjà bien actifs. Et donc c'est certain que leur degré d'adoption de tout ce qui est AI est énorme. Et donc, on ne peut pas être le pays sans ces capacités-là, puisque de toute façon, on ne sera pas capable d'être concurrentiel. On l'a vu quand on a fait des tests avec nos meilleurs pilotes ici à l'US Air Force contre des robots de AI en dogfight. Et on a vu que chaque fois, l'humain a perdu sans avoir une chance de succès. Donc, au final, si la guerre de demain va se positionner avec ces systèmes automatisés, on n'a pas le choix d'avoir les mêmes options. Et on voit que tout ce qui est vélocité de réaction de l'humain et de prendre de risques, et aussi le fait que, ben, au final, grâce à cette capacité d'automatisation, on va aussi sauver des vies, puisqu'on n'aura pas l'humain dans l'avion. Ce qui permet de prendre beaucoup plus de risques et aussi d'être beaucoup plus proactif.
Donc ce que vous disiez, c'est que lorsqu'on fait des simulations de combat aérien entre côté américain, entre des IA et puis des pilotes humains, les pilotes humains perdent à tous les coups, c'est ça?
À chaque fois. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas de débat. Parce que forcément, l'AI n'a pas peur de mourir. Et aussi, l'AI est capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement grâce au volume de données. Il n'y avait même pas de débat, quoi.
Et vous pensez que c'est ça qui pousse l'US Air Force à opter pour le développement de machines comme le Valkyrie, qui n'ont que vocation à être automatiques?
Ben, je pense qu'il faut certainement pas être les derniers à l'avoir. C'est un peu comme tout ce qui est la déterrence nucléaire. Donc, je pense que c'est ce qui a poussé un peu, c'est toutes ces analyses-là, et puis aussi tout ce qu'on voit un peu au niveau de la Chine. Toutes ces innovations-là sont prises très au sérieux par la Chine et le parti chinois. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait réveiller un peu tout le Pentagone en se rendant compte qu'on était un peu derrière, il fallait sûrement ne pas s'endormir au volant.
Et quel est le niveau de catch-up, là, de rattrapage? Est-ce que le Pentagone vous donne l'impression d'avoir rattrapé la Chine déjà?
Non, je pense pas, mais c'est assez difficile parce que si vous voulez, nous on a beaucoup, si on regarde un peu les sociétés commerciales ici aux États-Unis, on est certainement les meilleurs, mais malheureusement beaucoup de ces sociétés-là refusent de travailler avec le gouvernement américain, tandis que forcément la Chine force les sociétés chinoises à travailler avec elle, mais en plus vole tout ce qui est propriété intellectuelle des États-Unis, donc au final ils ont accès un peu à tout. Tandis que le gouvernement américain, malheureusement, n'a pas assez accès à ces innovations-là. Ça peut sauver des vies. Alors, c'est vrai qu'on a vu le projet Maven ici aux États-Unis, qui était un projet avec Google.
Rappelez un peu ce que c'est que le, parce que moi je connais, mais rappelez un peu ce que c'est que le projet Maven, s'il vous plaît.
Alors, le projet Maven, c'était très compliqué, mais il y avait une partie de Maven où on utilisait des satellites pour détecter des objets au sol. Et on avait un partenariat avec Google, qui nous donnait accès à leur technologie qu'ils utilisent eux-mêmes. Pour Google Earth et compagnie. Et donc, après quelques plaintes d'employés et une pétition de 1 000 employés à Google, ce qui est rien, ce qui est une anecdote au niveau du volume d'employés de Google, Google a décidé de ne pas renouveler le contrat et donc a arrêté l'engagement avec le projet Maven. Et donc ça, c'était quand même une catastrophe parce que non seulement on a perdu l'accès à ce qui était le top de la technologie à l'époque, mais en plus, au final, on s'est rendu compte que ces gens qui se plaignaient donc de travailler avec le département de la défense, au final, on s'est rendu compte quand on est parti avec la débâcle en Afghanistan, où on a bombé un bus où on pensait qu'il y avait des terroristes à l'intérieur. Au final, c'était des enfants. Et moi, je pourrais dire que si on avait eu cette technologie-là de Google, on aurait pu avoir détecté mieux. Ce qui se passait au sol et ne pas avoir tué ces enfants-là. Moi, je dis toujours, on a deux bulles ici. Il y a la bulle de tout ce qui est complaisance et il y a la bulle des bisounours, quoi, hein, de la Silicon Valley. La complaisance, c'est le Pentagone. La Silicon Valley, c'est les bisounours. Et si les deux ne se réunissent pas et que particulièrement les gens de la Silicon Valley ne se rendent pas compte que on a besoin d'aider le département de la défense si on veut survivre. Donc ça, c'est quand même quelque chose où j'espère que les gens se réveillent un peu.
Vous n'avez pas l'impression que ça évolue un petit peu quand même, que cette espèce d'angélisme de la Silicon Valley est en train de battre un petit peu en retraite?
Non, je pense pas. Microsoft, bien entendu, a été depuis le début très pro-gouvernement et comme Amazon d'ailleurs. Cela dit, Microsoft est vraiment, une fois qu'il y a eu une plainte d'employés de Microsoft qui ont voulu aussi arrêter tous les engagements avec le DOD, le PDG de Microsoft a dit, bah, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Et ça, c'était assez plaisant de voir ça. C'est très rare. Vous avez mentionné quelques sociétés, mais attention, les plus grosses innovations viennent des petites startups dont on ne parle pas.
Est-ce que le complexe militaro-industriel américain n'est quand même pas en train de basculer avec un poids spécifique des startups tech, à 100% tech, qui finalement va prendre le pas sur les grands fournisseurs classiques du Pentagone, qui étaient connus, et vous l'avez, je crois, beaucoup expérimenté, pour leur inefficience et une propension à la gabegie?
Si vous regardez le budget, je sais même pas si ça c'est 1% du budget. Donc, si vous voulez, je pense que les grosses sociétés de la défense n'ont pas peur du tout, puisqu'ils ont 99% du budget restant. Donc, jusqu'à ce que ça arrive à un niveau où on est allé à un tiers du budget, je pense que on en est très très loin, quoi.
On va parler de votre société AskSage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases ce qu'elle fait, comment elle fonctionne et à qui elle s'adresse exactement?
On a vu la sortie de ChatGPT comme tout le monde. On a commencé à l'utiliser comme tout le monde. Mais c'est ce qui nous a quand même motivé à la base de dire, bah, attention, là, il y a quelque chose qui va quand même complètement révolutionner l'industrie. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé ChatGPT et l'ont abandonné assez rapidement parce qu'ils n'avaient pas appris à l'utiliser, quoi. C'est vrai qu'il y a une très grosse barrière d'adoption parce qu'il faut savoir comment lui poser des questions. Et donc nous, on s'est dit, bon, on va créer une plateforme qui va permettre non seulement de taper OpenAI, mais aussi Google, mais aussi Cloud, mais aussi tous les autres open source.
Qu'est-ce que vous faites pour le Pentagone?
Alors pour le Pentagone, on a aujourd'hui 4 200 équipes du Pentagone qui utilisent Sage. On a 10 000, plus de 10 000 utilisateurs par jour actifs, qui est la plus grande implémentation d'intelligence artificielle dans le DoD. Donc c'est assez énorme. Et donc ils l'utilisent pour beaucoup de tâches au quotidien.
La dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez parlé d'une application étonnante qui était la création, je redis ça avec mes mots, d'une espèce de social graph, d'un graphe social de l'armée chinoise. Vous vous souvenez?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation aussi dans tout ce qui est intelligence, renseignement. Par exemple, on est capable d'avoir des très grands volumes de données en chinois et le robot est capable d'ingérer tout ça et ensuite de générer des rapports. Donc, par exemple, il a été capable d'extraire des données de résumés de membres du Communist Parti chinois et qui a à peu près 150 champs avec des informations sur leur métier, ce qu'ils aiment faire, d'une naissance, et le robot est capable de faire un résumé en 2-3 secondes de toute l'histoire de cette personne-là et de permettre d'extraire cette information-là. Et on a aussi la base de données de tout ce qui est contrat des Chinois, et donc ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'ils achètent, quand, comment, qu'est-ce qu'ils sont en train de prioriser ce mois-ci.
Pour être très concret, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de prendre la biographie d'un dirigeant chinois, militaire ou civil, membre du Parti communiste, de toute façon, les militaires le sont tous, je crois, et d'extraire donc environ 150 critères sur cette personne, de reconstituer donc toute sa carrière, son activité actuelle, ses connexions, de faire correspondre ça avec tout un tas de contrats en développement, et donc vous êtes en mesure de déterminer les activités de ces personnes, c'est ça?
Oui, absolument, absolument. Et c'est vraiment exceptionnel. Et puis surtout en quelques secondes, c'est-à-dire que ça, à l'époque, ça aurait pris, pour un analyste, ça aurait pris 2 semaines, quoi. Maintenant, tout ça est automatisé, ce qui permet au robot, au final, de se connecter sur n'importe quel système très très rapidement, en fonction de la demande. C'est-à-dire que si vous demandez des informations sur les résumés chinois et vous demandez des informations sur les contrats chinois, il sait faire la requête, récupérer l'information, l'analyser et ensuite vous donner le rapport clé en main. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend moins de 5 minutes.
Pour reboucler et pour terminer avec la question de la confrontation avec la Chine, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une supériorité technologique dans le domaine de l'IA, finalement assez forte par rapport à la Chine, et que peut-être que la menace chinoise est peut-être un petit peu surévaluée?
Non, je préfère toujours surestimer et avoir raison que sous-estimer. Et donc ça, c'est vrai que peut-être que je surestime un peu, mais avec les informations dont j'ai accès, qui sont classifiées, et ce que j'ai vu des Chinois aujourd'hui, la vélocité d'adoption de technologies, en plus l'avantage qu'ils ont de pouvoir mandater à toutes les sociétés chinoises de donner tout leur
au secteur privé, vous voulez dire,
propriété intellectuelle. Voilà, je pense qu'il y a pas de doute que au pire on est égaux, mais attention, il faut pas oublier qu'on est aussi avec un compétiteur qui a 1,4 milliard d'habitants. Avec une vélocité énorme. C'est vrai qu'il y a eu du progrès. Alors, ça permet quand même d'être content. Par exemple, on a créé le bureau du Chief Digital AI Office au DOD, qui n'existait pas quand je suis parti. Donc maintenant, il y a un bureau dédié à tout ce qui est digital et tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ça, c'est un gros progrès. D'ailleurs, le bureau a été créé grâce à mon départ et grâce au bruit qu'on a fait pour un peu...
Vous aviez fait la préconisation?
Oui, j'avais fait la préconisation, mais aussi le bruit qu'on a fait dans le public avec tous ces engagements avec la presse, ça a permis de faire réveiller un peu les gens. Maintenant, voilà, quand on commence à regarder les résultats, on dépense beaucoup d'argent. La question est toujours, est-ce que le retour sur investissement est au bon niveau? Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que quand on voit un peu le temps qu'il faut pour mettre une société en contrat ici au DOD, et tout ce qui est le logiciel, l'accréditation du logiciel, ça prend un temps fou. Même moi, avec Assage, alors que je connais le système complètement par cœur, on est quand même à 6-8 mois, alors que ça devrait prendre un mois, quoi. Oui. Donc, il y a quand même beaucoup de freins et qui ralentit l'adoption de l'innovation. C'est toujours pareil.
C'est sûr. Juste pour terminer, une question personnelle. Vous voyez continuer votre trajectoire déjà bien riche d'entrepreneur, ou bien est-ce que vous voyez revenir dans l'administration, c'est-à-dire au Department of Defense, pour avoir un poids plus fort sur les destinées de l'armée américaine?
Je pense que c'est assez intéressant de pouvoir faire un peu les deux, parce que les gens passent trop de temps dans le gouvernement, après ils sortent du gouvernement après 40 ans, donc je pense que c'est très très sain d'avoir ce niveau de turnover, comme on appelle ça, de gens qui viennent dans le gouvernement, qui ressortent au bout de 3 ans, qui vont dans le commercial, qui refont 3 ans dans le commercial, qui reviennent dans le gouvernement. Donc moi là, ça fait donc j'ai passé 5 ans dans le gouvernement. Au final, je commençais à devenir le problème parce qu'on s'habitue au manque de vélocité, on s'habitue à tout ce qui est bureaucratie. Donc moi, je pense que d'ici voilà 2025, si je peux revenir refaire 3 ans dans le DED et de vraiment pousser l'innovation. Ce qui me fait peur, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui étaient très innovants et très forts dans le DED partir sans remplacement.
Pourquoi partent-ils?
Ils partent souvent parce que d'abord, ils ont passé beaucoup de temps dans le gouvernement et comme moi, ils étaient un peu fatigués et c'est assez, voilà, ça prend beaucoup sur la santé psychologique. C'est très, très fatigant. Mais aussi, voilà, quand on voit comment on paye les gens au DOD comparé à ce qu'ils peuvent gagner au commercial, c'est assez difficile de justifier de rester dans le gouvernement pendant trop longtemps. Donc, voilà, ils sont débauchés, ils ont des offres ailleurs. Et puis aussi, ils sont frustrés. Voilà. On a perdu un peu cette notion de les gens étaient très excités d'innover. Il y avait un très bon engagement d'innovation il y a 3 ans. Voilà, aujourd'hui, ça a un peu perdu son momentum.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous.
À écouter Nicolas Chaillant et en se basant simplement sur les récentes avancées technologiques dans le domaine militaire aux États-Unis et ailleurs, l'ère des armes intelligentes semble imminente. Si personne ne croit à l'émergence d'un réseau Skynet, comme dans Terminator où les machines exterminent avec délice les humains, la guerre de demain n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante contrôlef@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.